La symphonie triste. On avait souvent dit à Grégory de s'enfuir et de se cacher, mais il ne pouvait se décider de quitter cette maison de paysan avec sa terrasse donnant sur le jardin où une tonnelle de vignes ombrageait l'été le repas de midi. Depuis que l'oppression nazie l'avait conduit de Budapest à ce village du Périgord, il vivait en solitaire dans cette ferme. La semaine, il avait son compagnon fidèle qui, depuis plus de 15 ans, ne l'avait jamais quitté, son violoncelle. Le dimanche, il avait Jeanne. C'était un homme grand, au fin profil d'israélite, brun et maigre, dont les longs doigts enveloppaient chaque chose avec amour. Quand il tendait la main, on y sentait tout l'amour et la pitié du monde. Ses mains étaient faites pour donner. Et certes, pendant presque 2 ans, il fit sans le savoir un don merveilleux aux habitants de ce village, il leur révéla la musique. Et souvent, un paysan, amenant ses bœufs au labour, faisait un détour par cette ruelle pour écouter le musicien. Il arrêtait ses bêtes devant la fenêtre où coulait ce flot d'harmonie si proche de la voix humaine, si prenant et si triste. L'homme repartait vers les champs, mais il n'était plus tout à fait le même. Quelque chose en lui avait changé. Le génie avait éveillé dans cette âme simple un écho qui vibrerait longtemps encore. Je me souviens de ces merveilleuses après-midi de dimanche où les heures coulaient avec un goût de miel dans les pépiments d'oiseaux et les multiples parfums des fleurs agrestes. Pendant que nous parlions, Grégory était assis sur une petite chaise basse dans l'angle de la pièce et derrière lui, son violoncelle reposait contre le mur. De temps à autre, sa main droite caressait le bois précieux et effleurait les cordes en les touchant à peine, comme il faisait sans doute du visage de Jeanne. Au contact de l'instrument, son regard s'illuminait d'une lueur presque inquiétante. On sentait que son esprit s'envolait vers des pays connus de lui seul, où la souffrance et la mort ne pouvaient l'atteindre. Il cherchait les yeux de Jeanne et son regard rivé au sien, il se levait lentement. D'un geste de somnambule, il attirait vers lui le violoncelle qu'il accordait longuement. Je sentais dans le ventre la vibration des 2 cordes basses, le do et le sol, avec une intensité douloureuse. Et puis, c'était l'enchantement. Le dieu de la musique pénétrait dans le corps et dans l'âme de Grégory et en faisait un être surnaturel. La virtuosité de l'artiste et son étonnante mémoire lui permettaient de jouer pendant des heures les chefs-d'œuvre des musiciens de tous les temps, avec une divination que j'ai retrouvée plus tard chez Pablo Casals. Grégory affectionnait les romantiques et en particulier Weber. Tout Wagner est déjà dans Weber, me disait-il. Et il jouait admirablement une longue symphonie extraite d'Euryanthe que je n'ai jamais pu écouter sans avoir les larmes aux yeux. Je l'appelais la symphonie triste. Les heures et les jours coulaient avec un goût de miel pour Grégory. Entre Jeanne, son violoncelle et ses amis, il était heureux. Et il souhaitait passer ainsi toute sa vie dans ce calme village qui était pour lui le paradis. Mais un soir, un peu après l'Angélus, une colonne allemande encercla le village. C'était vers la fin de l'été, et le lendemain, Jeanne devait venir parce que c'était dimanche. Grégory avait senti monter en lui un tel désir de s'unir à elle qu'il attira vers lui son violoncelle et le dos tourné à la fenêtre ouverte sur le jardin, il attaqua les premières mesures de la symphonie de Weber. L'officier allemand s'était arrêté à l'entrée du jardin. Il écoutait. Derrière lui, les 2 soldats étaient immobiles, leurs mitraillettes pointées vers le sol. Grégory jouait avec ferveur le largo presque entièrement sur les cordes de do et de sol, et le chant douloureux était d'une noblesse et d'une profondeur inouïe. Jamais peut-être Grégory n'avait mieux joué, avec plus de fougue, plus de don de lui-même, plus de désespoir. Et peut-être savait-il déjà qu'il disait ainsi adieu à Jeanne, à son violoncelle, et peut-être aussi adieu à la vie. L'officier allemand écoutait toujours, la tête légèrement penchée et les yeux mi-clos, et soudain, entre ses cils, une larme apparut qui perla un instant puis laissa une trace luisante le long de sa joue. Et Grégory donna son dernier coup d'archet. La note, surmontée d'un point d'orgue, se prolongea longuement comme le son du gros bourdon résonne dans l'air du soir. Alors, les trois hommes pénétrèrent dans la maison et ressortirent un instant plus tard avec Grégory. C'était il y a bien longtemps. Plus tard, je suis revenu à Château-l'Évêque me promener dans les rues calmes du village et j'ai cherché la maison à la terrasse ombragée de vignes. J'aurais tant voulu entendre une fois encore ce violoncelle grave dont je sentais toujours dans le corps la résonance douloureuse. Mais je sais qu'à Auschwitz, les soirs d'hiver, quand le vent se griffe aux fils barbelés, dans les sifflements rageurs, un son plus grave monte parfois de ce lieu de supplice, comme un appel désespéré. C'est le violoncelle de Grégory qui chante pour l'éternité la symphonie triste de Weber. »